dise, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Ces paroles solennelles sont prononcées par Jésus lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, glorifié. Et il s'adresse aux églises, hein, il dit « J'ai envoyé mon ange pour dire cela aux églises ». On pourrait dire « Mais nous, nous vivons sur la terre, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à la Jérusalem céleste ?» C'est parce que c'est notre destination future. Jésus a dit « Je vais m'en aller, mais je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Et où est-ce qu'on va être ? On va être dans cette Jérusalem céleste, dans cette ville sainte, dans ce paradis extraordinaire que Dieu nous réserve. Et c'est merveilleux d'avoir cette espérance, même si on a une vie difficile sur la terre, même si notre vie était atroce sur la terre, on aurait encore cette espérance. Je vais au ciel. Dès que je meurs, pouf, c'est fini. Et c'est ça aussi qui est le soutien de la vie du chrétien. Cette espérance vivante. Vous savez quels sont les trois soutiens du chrétien? Ou les trois éléments de la foi? Les trois jambes? La foi, l'amour et l'espérance. Hein, c'est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. La foi, c'est ce qui nous tient au Seigneur, qui nous apporte le salut. L'amour, c'est ce que nous recevons de Dieu, mais c'est aussi ce que nous donnons aux autres. Et puis l'espérance, c'est notre attente du Seigneur et de cette Jérusalem céleste. Mais 1 Corinthiens 13 dit, quand nous serons dans la présence de Dieu, il ne restera plus qu'une chose, l'amour. Il n'y aura plus la foi, puisqu'on va voir le Seigneur, il n'y aura plus l'espérance, puisqu'on y sera, il n'y aura que l'amour dans lequel nous serons consommés et consumés. Ce chapitre a deux parties. Il y a les versets 1 à 5 qui sont en fait la continuation du chapitre 21. Ceux qui ont séparé la Bible en chapitres, parfois l'ont fait de façon arbitraire. Ils ont essayé d'équilibrer le nombre de versets, mais là ça tombe pas très bien. En fait, on est dans la fin du chapitre 21 qui décrit la cité céleste et il en est au moment où il parle du fleuve de la vie et de l'arbre de vie. Alors ça nous fait penser à quel passage de la Bible ça, le fleuve de la vie et l'arbre de vie. À la Genèse, voilà, et nous découvrons dans la Genèse que dans le jardin d'Éden, dans le jardin, le paradis terrestre hein, où étaient Adam et Ève, il y avait des fleuves qui apportaient l'eau de la vie et qu'il y avait un arbre, l'arbre de vie, et que cet arbre justement permettait de vivre éternellement. Il y avait aussi l'arbre du bien et du mal qu'on ne retrouve pas évidemment dans la Jérusalem céleste. Tout au ciel sera parfait. Tout dans la Jérusalem céleste sera parfait. Si on regarde les versets 3 et 4, et si tu veux montrer le premier tableau, voilà, ici, verset 3, il n'y aura plus d'anathème, de malédiction, il n'y aura plus de péché. Nous serons dans une sainteté parfaite. Il n'y aura plus d'imperfection, plus de choses à moitié faites, plus d'échecs, plus de malédictions sur le mal. Il n'y aura que la sainteté et la bénédiction. Verset 3, il est dit aussi que nous servirons, ses serviteurs le serviront. Alors ce n'est pas le même mot là. Le mot servir, là, serviront, c'est un mot qui veut dire aussi rendre un culte. Et les serviteurs adoreront le Seigneur, feront le service du Seigneur comme un culte. Et en fait, l'adoration et le service sont deux choses qui vont ensemble. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons le faire parce que nous l'adorons, parce que nous l'aimons. Et lorsque nous adorons le Seigneur, nous devons aussi le suivre, le faire suivre d'un service. Si quelqu'un dit, moi je passe toute la journée à adorer Dieu, toute la semaine, toute la vie, et qui ne sert pas le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie chrétienne. Si quelqu'un est tout le temps en train d'être à droite, à gauche, mais il n'adore jamais Dieu, il n'est jamais dans la présence de Dieu, son service va passer à côté de la volonté de Dieu. Il faut qu'il y ait l'adoration et le service, et il y aura une adoration parfaite et un service parfait au ciel, dans la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, nous essayons de servir le Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles, nous ne voyons pas toujours très clairement la volonté de Dieu, nos œuvres, même faites dans la volonté de Dieu, sont souvent entachées de notre péché, de notre orgueil, ou même les grands missionnaires, ils ont des moments d'orgueil, ils se disent quand même, je suis un grand missionnaire, bon, voilà, ça y est, t'as perdu déjà ta récompense. Et on perd nos récompenses, malheureusement, par des petites choses comme ça, mauvaises. Mais au ciel, il n'y aura plus que la perfection. Même quand on servira le Seigneur, on le fera parfaitement. Et puis, il y aura la communion parfaite, puisqu'il est dit, ils verront sa face. Les serviteurs de Dieu verront sa face. Est-ce qu'on peut voir la face de Dieu aujourd'hui? Non. Pourquoi? À cause du péché? Oui. Pourquoi on ne peut pas dans ce corps voir la face de Dieu? Parce qu'on mourrait, on serait vraiment anéanti par la puissance, la sainteté de Dieu. Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Même Moïse qui a demandé à voir Dieu, Dieu lui a permis de voir la gloire et encore il a dit, cache-toi et je te ferai passer ma gloire. Et il s'est caché et la gloire de Dieu était si forte qu'il était bronzé, hein, il avait le visage rayonnant de la gloire de Dieu alors qu'il était caché. Imaginez d'être devant la face de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas possible, la Bible le dit. Hein, mais le seul moment où on va pouvoir enfin voir la face de Dieu, c'est dans la Jérusalem céleste. On va le voir face à face, voir mon Sauveur face à face, dit le cantique. Comment est Dieu? Je ne peux pas vous le dire, la Bible ne dit pas. Il y a plein de descriptions autour de lui, mais Dieu, c'est cette gloire, cette lumière, c'est indescriptible. Même Jean n'a pas pu le décrire, mais ce sera vraiment une vision fantastique, puisqu'il y aura en même temps la lumière, la perfection, il y aura l'amour parfait. Il y aura l'intelligence parfaite, la sagesse parfaite, la justice. Tout ça émane de Dieu, tout ça c'est lui. Et on sera face à ça et on va être... voilà. On va recevoir ça en pleine figure. Et ça va être extraordinaire d'être devant le Dieu vivant, le voir face à face. Nous aurons donc une communion parfaite avec lui. Tout sera transparent, le cristal. Hein, revient là encore l'idée de cristal. Il n'y aura... rien de caché, rien de ténébreux, plus de nuit, plus d'ombre, il n'y aura que la lumière du Seigneur. Et puis, nous serons à sa ressemblance parfaite, verset 4. Son nom sera sur leur front, nous porterons le nom du Seigneur sur nous, et ainsi nous serons parfaitement semblables à Christ. Ça ne veut pas dire qu'on sera un clone hein, ou un jumeau, mais nous serons semblables dans sa gloire. La gloire de Christ, nous pourrons la vivre nous-mêmes. Il y a des choses très touchantes dans ce passage parce que, par exemple, dans 1 Corinthiens 13, il parle un peu de ce moment. 1 Corinthiens 13, verset 10. C'est Paul qui écrit « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Et ici, ce qui est parfait, il ne parle pas du retour de Christ, là. Il parle de quelque chose de parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Les commentateurs, hein, parfois sont divisés, mais la plupart disent, c'est l'état éternel, c'est cette perfection dans le ciel. Quand nous serons dans la perfection céleste, tout ce qui est partiel sera aboli. Aujourd'hui, verset 12, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et ici, il veut dire, je saurai comment Dieu me voit, je serai dans la perfection, je comprendrai ce que Dieu voyait, je me dirai, ah, mais voilà pourquoi tu as fait ça, Seigneur. Voilà pourquoi tout va s'éclaircir, tout va être clair. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas dans la vie. Hein. Il y a des épreuves, on ne les comprend pas, il y a des choses, on dirait, mais c'est injuste. Et des fois, on dit à Dieu, mais Seigneur, explique-moi, j'ai rien compris à ce qui se passe. Mais au ciel, tout deviendra limpide et clair, on comprendra tout. Vous me dites pourquoi on doit attendre le ciel? C'est parce que notre intelligence est imparfaite. Nous voyons comme au moyen d'un miroir. À l'époque, les miroirs, c'était pas les miroirs comme on a aujourd'hui, c'était des morceaux de métal qui étaient frappés et on se voyait hein, dans le métal. C'était pas très clair. On voyait pas bien son visage. Et c'est ça qu'il voulait dire. Hein. Aujourd'hui, c'est confus. Mais au ciel, dans la perfection, tout sera clair et on comprendra l'esprit de Dieu et les œuvres de Dieu. Et puis, pour revenir à l'Apocalypse et à Genèse, l'Apocalypse, c'est l'accomplissement, c'est la victoire sur la chute en Genèse. Donc, si on regarde le tableau suivant, comparaison entre Genèse et l'Apocalypse. En Genèse, la terre et le ciel ont été créés, mais ils ont été pollués par le péché, la révolte de Satan et de l'homme. Et dans le nouveau, la nouvelle... Jérusalem et dans l'Apocalypse, la terre et le ciel sont totalement refaits, nous l'avions vu, hein, ils recréent. Ensuite, Satan, dans la première création, s'est révolté, il est venu dans le jardin et il a tenté l'homme pour prendre le pouvoir sur la terre. Et il a réussi. Mais dans l'Apocalypse, Satan est éliminé pour toujours. Il est jeté dans l'étang ardent de feu où il ne sortira jamais. Dans la Genèse, le péché et la mort sont entrés au chapitre 3. Hein. Satan est entré dans le jardin et Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu. Et la conséquence a été la malédiction sur la terre, le jugement et surtout la mort, la séparation d'avec Dieu. Et dans l'Apocalypse, le péché et la mort sont anéantis. Il n'y aura plus de malédiction, plus de péché, plus de mort. Tout ça est terminé et vaincu une fois pour toutes. Dans la Genèse, la douleur et la souffrance apparaissent à cause du péché et comme un jugement. Et par exemple, les douleurs de l'enfantement, dit Dieu, hein, c'est une conséquence du péché. Mais dans l'Apocalypse, toute douleur, toute souffrance, toute peine, toute larme est effacée pour toujours. Il n'y a que cette félicité merveilleuse et parfaite. Dans la Genèse, l'arbre de vie qui était là est retiré, hein, est barré. Adam et Ève ne peuvent plus y toucher et Adam et Ève sont eux-mêmes expulsés du jardin de Dieu à cause de leur révolte. Et dans l'Apocalypse, non seulement l'arbre de vie est là à nouveau, mais il est multiplié, il y en a plein. Sur les deux rives du fleuve, il y a des arbres de vie qui donnent des fruits 12 fois par an. Hein, ça n'existe pas sur Terre, un arbre qui donne 12 fois par an des fruits. Et les feuilles serviront à la guérison des nations. L'arbre de vie est présent à nouveau, accessible pour tous. Et l'homme n'est plus expulsé, l'homme vit maintenant face à face avec Dieu dans l'Apocalypse. Donc on voit ce parallèle, et c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est extraordinaire, c'est que ce qui est entamé dans la Genèse est achevé dans l'Apocalypse. Ce qui est cassé, détruit dans la Genèse, et reconstruit, refait parfaitement dans l'Apocalypse. La Bible est un tout, elle a une unité, une cohérence. Les livres de la Bible ne sont pas comme ça au hasard. Il y a vraiment un plan de Dieu qui s'accomplit. Le plan de Dieu s'accomplira quoi qu'il arrive. C'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Le fleuve de vie, dans... ce passage de l'Apocalypse fait penser au fleuve qui coule depuis le temple dans le livre d'Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel. Mais là, il coule depuis au milieu de la place. Et ce fleuve est un symbole aussi de la vie de Dieu, de la vie de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, hein, « Si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. » Et là où il y a Dieu, il y a la vie. Et il y a des fleuves, c'est-à-dire Dieu n'a pas de la vie comme ça, avec un petit robinet ou une petite bouteille. Dieu, c'est des chutes d'eau du Niagara, c'est cette abondance de vie et de vie sainte. Vous savez, la vie éternelle, en fait, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. n'est pas juste une sorte d'énergie qu'on reçoit, c'est la vie même de Dieu que l'on reçoit en nous. Et quand il est dit celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, ça veut dire il a la vie même de Dieu. Si j'ai la vie de Dieu en moi, est-ce que je peux aller en enfer? Est-ce que je peux mourir dans la seconde mort? Non, parce que la vie de Dieu est impérissable, la vie de Dieu ne peut pas aller dans la seconde mort. Et j'ai cette vie éternelle et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il doit y avoir déjà des fleuves, mais là dans le ciel il y aura ces fleuves, ce fleuve qui sera au milieu de la ville. Et puis le bois, l'arbre, c'est le même mot qui est employé en 1 Pierre 2,24 pour l'arbre. Et 1 Pierre 2,24, ça nous parle d'un autre bois, c'est le bois de la croix. Il est dit « Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le Seigneur nous a sauvés du péché par sa mort sur le bois. Et l'arbre de vie, c'est aussi un symbole hein, de cette croix où Jésus est mort et par lequel nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais l'arbre de vie se servira aussi à donner la vie aux habitants de la terre, aux nouveaux habitants de la terre. Ils auront cette vie permanente. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, hein, il n'y aura plus de guerre, puisque tout sera parfait, mais il y aura besoin de cet arbre de vie pour recevoir la vie de Dieu. La vie que nous aurons au ciel, c'est cette vie qui jusque-là était cachée, j'aimerais qu'on regarde Colossiens chapitre 3. Parce qu'on se dit, quelle vie nous aurons? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors en Colossiens chapitre 3, verset 3, il dit, aux chrétiens, il dit, hein, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc c'est un peu mystérieux hein, cette parole de Dieu. Votre vie, vous chrétiens, nous chrétiens, est cachée. Pourquoi elle est cachée? Non, elle sera révélée à quel moment? Quand Jésus paraîtra, exactement. C'est ce qui est dit là. Hein. Donc pour l'instant, nous avons Christ en nous, cette gloire ineffable, cette vie éternelle, elle est en nous, mais elle n'est pas révélée encore. Quand nous serons dans la Jérusalem céleste, dans notre corps ressuscité, cette gloire va jaillir de nous aussi, hein, et nous serons baignés, nous allons nager, je sais pas comment dire, dans la gloire. Il y aura plus de mer, mais il y aura la gloire dans laquelle on va nager. Cette gloire, c'est indescriptible encore, hein. Il y a le mot gloire exprime très peu ce que ça peut être, mais aujourd'hui, nous ne devons pas nous décourager, parce que sur terre, effectivement, il y a des tentations nombreuses, il y a des combats, il y a notre vieille nature qui est là, qui revient toujours, et on peut se décourager, dire, mais c'est trop dur la vie chrétienne. À quoi bon croire, hein? J'ai cru, mais finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, les gens, ils veulent plus me parler, et puis j'ai des ennuis comme les autres, et même pire, des fois, je me demande, finalement, à quoi ça sert de croire? Mais ta vie, si tu as reçu la vie en Christ, elle est cachée, c'est vrai, mais elle va se révéler quand Christ paraîtra. Alors ne te décourage pas et ne deviens pas aigri ou aveugle spirituellement. La source de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est en toi, cette source de vie ne va jamais cesser de couler et elle sera ton soutien dans les pires épreuves et surtout, elle se révélera dans la gloire. Nous vivrons cette gloire céleste. Dans la deuxième partie de ce chapitre, verset 6 à la fin, j'aimerais souligner trois éléments. Et d'abord, la parole de Dieu. C'est une conclusion au livre de l'Apocalypse et il dit au verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables. » La parole de Dieu est certaine et véritable. Christ va revenir, c'est certain. Il y a une résurrection, c'est certain. Il y a une seconde mort, un étang de feu, c'est certain. Il va y avoir un antéchrist, c'est certain. Il va y avoir un jugement sur toute l'humanité, c'est certain. Il y a une Jérusalem céleste où nous habiterons, c'est certain. Maintenant, lorsque des théologiens ou des pasteurs vont vous dire « Oh, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment un enfer, c'est pas sûr qu'on va ressusciter, c'est pas sûr qu'il y a un jugement », ne les écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu, parce qu'elle est certaine et véritable. Il est dit au verset 18 et 19, si quelqu'un ajoute quelque chose ou retranche quelque chose à cette prophétie, il sera lui-même retranché. Hein. Et c'est une citation un petit peu de Deutéronome 12, 32, hein, où Moïse dit la même chose, de ne rien retrancher ou ajouter aux paroles de Dieu. Et c'est quelque chose de, avec toute la Bible, il y avait ce pasteur qui était touché par les théologiens libéraux. Libéraux, c'est-à-dire c'est ceux qui commencent à nier les miracles, nier que toute la Bible soit inspirée, à nier que vraiment il y ait l'enfer et le ciel, la vie après la mort, les résurrections, il dit tout ça. Donc, il faut faire le tri dans la Bible. Et donc ce pasteur, à chaque message, il disait, oui, bon, ça, c'est pas vraiment... Faut pas prendre ça au premier degré, au pied de la lettre. Et donc ce chrétien avait écouté ce pasteur pendant des années, et le voilà qui est mourant dans son lit de maladie chez lui. Et le pasteur vient lui rendre visite. Et le pasteur dit, mon pauvre ami, vraiment, vous êtes aux derniers instants. Il dit, oui, je sais que je vais partir. Et est-ce que je peux vous lire un passage de la Bible? Alors, bien sûr, cher pasteur, où est ta Bible? Ben, elle est là à côté, donc il prend. Et puis, elle est vraiment très, très fine. Il dit, mais vous êtes sûr que c'est toute la Bible? Il dit, ah, c'est toute la Bible, pasteur. Mais au fur et à mesure que vous prêchiez, j'ai enlevé les passages, les pages. Vous avez dit que c'était pas vraiment... Et c'est tout ce qui me reste. Terrible. Ce chrétien avait pris au mot son pasteur et dit, ça c'est pas bon, ben, il l'avait découpé lui. Il dit, c'est pas bon, on le jette. Pourquoi on va le garder? Et il y a des théologiens, c'est souvent les théologiens malheureusement, hein, je veux pas me jeter la pierre sur les théologiens, mais c'est souvent, ça part de là, ça part d'en haut, des penseurs chrétiens qui enlèvent des pages de la Bible. Hein. Et malheur à eux, hein, la Bible dit, celui qui retranche, il sera retranché. Ou celui qui ajoute. Alors qui est-ce qui a ajouté? Mais ça c'est aussi dans l'histoire de l'Église, on a rajouté plein de traditions, plein de choses en plus de la Bible et qui souvent contredisent la Bible. Il faut avoir la parole de Dieu et rien qu'elle. C'est elle, c'est cette Bible gardée au cours des siècles qui est celle qui va nous amener au ciel, on peut dire. Hein. Le deuxième point après la parole de Dieu ici, c'est l'annonce du retour de Christ. Vous avez remarqué une répétition dans ces versets-là? Qu'est-ce qui revient? Voilà, je viens bientôt, je viens, je viens, je viens bientôt. Si on n'a pas compris, je pense que Dieu veut dire aux églises, Christ va revenir, il va revenir, il va revenir. Et malheureusement, nous sommes 2000 ans après et beaucoup de chrétiens ont oublié ce retour. Vivent comme si Jésus n'allait jamais revenir. Voilà. Et là, il y a une exhortation pour nous. Et je viens bientôt, c'est un mot qui veut dire je viens vite. Je viens, je vais venir d'un seul coup. Pfiou ! Voilà. Christ ne va pas revenir par étapes. Il ne va pas faire des étapes, hein, des arrêts en gare. Le train arrive au terminus tout de suite. Il y a un jour, on va se réveiller, le Seigneur sera là. Voilà. Et nous, on va ressusciter et être enlevés avec le Seigneur. Et le monde, lui, va passer une tribulation terrible, décrite dans l'Apocalypse, de 3 ans et demi au moins. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous, on peut dire, voilà, viens bientôt, on peut faire cette prière. Pourquoi on veut prier, viens bientôt? Est-ce qu'on en a marre de cette vie? Quelque part, oui. C'est-à-dire, on aime la vie. On est, d'ailleurs, Dieu nous a fait comme ça. On aime ce qui nous entoure. On aime la vie que Dieu nous a donnée. Mais en même temps, on voit tellement d'injustice, tellement de méchanceté, tellement d'horreur. On dit, mais quand va-t-il y avoir la justice? Et c'est ça qui nous fait crier, viens bientôt, Seigneur. Viens rétablir la justice, ton règne. Viens nous prendre. Nous avons hâte d'être dans ta présence. Ce sera notre vraie maison. Aujourd'hui, nous sommes pèlerins et étrangers, dit la Bible, hein, sommes voyageurs sur la terre. Notre maison est au ciel. Voilà. Et nous, on s'est installé tellement sur la terre qu'on a oublié le ciel. Jésus a dit, attachez-vous hein, aux choses d'en haut, faites-vous un trésor où ? Dans le ciel. Est-ce que nous avons un trésor dans le ciel ? Est-ce que nous travaillons pour l'éternité ou est-ce que nous travaillons juste pour notre ventre terrestre ? Et le Seigneur dit, je viens. Il le répète. L'esprit et l'épouse disent, viens. Hein, l'épouse, c'est le peuple de Dieu, l'Église. Et Jésus répète, oui. Il y a une sorte de chant commun avec le Seigneur. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. L'Apocalypse est un livre difficile, hein, à interpréter. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de passages où il faut bien connaître le reste des Écritures. Mais c'est un livre tellement merveilleux parce qu'on y voit la victoire du Seigneur, on y voit la gloire de Dieu, on y voit des petits éléments du ciel, des petits recoins là, à travers le rideau. Oh, regarde le ciel! Et c'est ça qui est la bénédiction du livre de l'Apocalypse. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous, de pouvoir le lire et d'adorer le Seigneur. Et puis le dernier élément, après la parole de Dieu et l'appel, et le retour de Christ, pardon, c'est l'appel. Il y a deux versets en particulier, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore plus injuste et se souille plus encore. » Alors on se dit, comment Dieu peut-il dire une chose pareille ? Est-ce que Dieu veut que les gens se souillent ? Est-ce que Dieu veut que les gens soient injustes ? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est une façon de dire que lorsqu'on s'endurcit contre la parole de Dieu, on devient de plus en plus dur, de plus en plus sale, de plus en plus souillé. Avec le péché, on ne peut pas être neutre. Si je choisis le péché, je vais être de plus en plus esclave du péché. Si je choisis le Seigneur, je vais être délivré, de plus en plus saint. Et c'est ce qu'il dit, hein, que celui qui est juste pratique encore plus la justice. Il y a une sorte de séparation de plus en plus grande, hein, un petit peu comme deux bateaux qui dérivent hein, sur l'océan. Celui qui a un moteur et qui va vers la terre, il sait où il va, il avance, mais celui qui est sans moteur, il va être là et on va s'éloigner de plus en plus et à un moment, on ne va plus se voir. Et c'est un peu pareil avec les personnes qui résistent à l'évangile. Lorsque quelqu'un entend l'évangile et résiste à Dieu, vraiment à Dieu, c'est pas que cette personne est indifférente, mais elle résiste. Alors son cœur s'endurcit un peu plus. Et elle va être de plus en plus prise par les liens du péché et de l'endurcissement. Et il y a un moment que Dieu seul connaît, où l'endurcissement est arrivé à un tel point que c'est terminé. La personne ne se repentira plus. Jamais. Elle est allée trop loin. On peut blasphémer contre Dieu. Jésus a dit, tout blasphème sera pardonné. On peut vivre une vie de péché, on peut être un criminel, tuer des gens et être sauvé. Parce que la grâce de Dieu va jusqu'au criminel. Hein. Bien sûr, il faut qu'ils payent leur dette à la société. Mais par contre, quelqu'un qui dit non à l'évangile, non à Jésus-Christ, il se condamne lui-même parce que c'est le seul moyen de salut. Et donc, il se condamne à être de plus en plus souillé. Il choisit sa voie. Et on va voir de plus en plus que notre monde va couler de plus en plus dans la souillure. Et les chrétiens, nous sommes exhortés à être de plus en plus saints. À ne pas suivre le bateau qui coule. À sortir du bateau. Voilà. Et c'est un avertissement pour nous aussi, devant la décadence, de rester près du Seigneur. D'être particulièrement pur et de ne pas jouer avec le péché. Et puis le deuxième appel, c'est le plus beau pour moi, verset 17. L'esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui entend dise « viens » aussi, et que celui qui a soif vienne, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est le plus bel appel de la Bible pour moi, un des plus beaux appels. Tu as soif. On ne peut pas faire plus simple. Bien sûr, c'est une soif spirituelle, hein. Tu as soif de justice, tu as soif d'amour, tu as soif de paix, tu as soif de vérité, tu as soif de Dieu, tu as soif de bénédiction. Viens à Jésus-Christ. Prends l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est le mot-clé. Gratuitement. Christ nous offre la vie éternelle par sa mort sur la croix. Il a payé pour nous. Et nous, nous n'avons qu'à prendre. Celui qui veut de l'eau, qu'il prenne de l'eau de la vie. Gratuitement. Prends. Tu as soif? Prends. La source est là. Christ est là devant toi. Ne cherche pas plus loin. Accepte le Seigneur. Reçois le Seigneur. Prends cette vie. Et il n'y a pas d'excuse là. Si on dit, oui, moi, je veux être sauvé, mais Dieu n'a pas permis. Mais si, c'est toi qui n'as pas bien pris. Parce que l'eau de la vie, elle est là, elle est gratuite. Elle est en Christ. Si tu prends Christ, tu seras sauvé. Est-ce que vous avez soif ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dit, j'ai soif de toutes ces choses. J'ai soif de l'éternité, de la justice. Eh bien, vous pouvez prendre cette eau de la vie gratuitement. Parce que c'est déjà payé. Christ a tout payé. En mourant par amour pour nous. Alors que le Seigneur nous remplisse nos cœurs. Si vous n'êtes pas venu au Seigneur, c'est le moment de le faire. Vous ne savez pas quand viendra la mort. Elle peut venir d'une façon inattendue. Vous ne savez pas quand viendra Jésus-Christ. Il peut venir d'une façon inattendue. Et c'est le moment de se repentir. C'est le moment d'entendre sa voix et de venir à lui. Parce que après, vous risquez de vous endurcir et d'être de pire en pire chaque jour. Et pour les chrétiens, Dieu nous appelle à vraiment nous attacher à sa parole, à la croire, à la vivre et à attendre le retour de Christ de tout cœur, à dire « Viens !» C'est pas juste attendre, c'est dire « Viens Seigneur !» Et qu'ensemble, on puisse dire « Viens bientôt Seigneur Jésus !» Vous voulez le répéter avec moi, si vous le croyez bien sûr, hein. Je ne veux pas vous forcer, « Viens bientôt !» Seigneur Jésus. On va terminer par un mot de prière. Ô Seigneur, nous avons hâte de te voir. C'est pas tellement la Jérusalem céleste qui nous intéresse, c'est ta présence. C'est de voir Dieu face à face, d'être dans cet amour, dans cette justice parfaite. Aujourd'hui, c'est tellement voilé par notre petite intelligence, par nos péchés aussi. Et Seigneur, nous verrons vraiment clairement. Nous connaîtrons comme tu nous as connus. Merci Seigneur de cette attente, cette espérance et de ton retour. Et je sais Seigneur que si tu tardes, c'est pour que d'autres soient sauvés encore. Tu veux qu'un maximum de gens entrent dans le ciel et tu patientes. Ô Seigneur, merci d'avoir patienté pour moi et pour d'autres. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas sauvé, je te prie Seigneur que tu te révèles à cette personne et qu'elle prenne de l'eau de la vie ce soir même et qu'elle entre dans cette espérance. Seigneur, garde-nous aussi de nous éloigner de ta parole et des vérités et de nous souiller dans le péché. Vraiment, nous voulons rester près de toi, nous aimer les uns les autres, et vivre en attendant ton retour. Père, nous t'adorons ce soir, et nous avons hâte d'être dans ta présence. Amen.